Mars 2020, la NASA propose d'envoyer votre nom sur la planète rouge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, j'ai trouvé un article de la semaine dernière sur le site BFM TV qui nous dit que les noms et prénoms de ceux qui s'inscrivent seront gravés sur une puce qui sera envoyée sur la planète Mars en mars 2020. Planète Mars, mars 2020, et qui doit atterrir en 2021. Alors pour l'instant, on ne peut pas encore poser le pied sur la planète Mars, mais il est déjà possible d'y laisser une trace dans un an. Et donc la NASA propose jusqu'au 30 septembre d'embarquer votre nom et prénom sur le rover Mars 2020. Et c'est un robot qui décollera en juillet 2020 et qui doit atterrir en février de l'année suivante. Et l'ensemble des noms et prénoms des participants seront gravés sur une puce de ce rover à l'aide d'un faisceau à électrons. Ne me demandez pas comment ils font, je ne sais pas. Et au total, ce sont 1 million de noms qui seront inscrits sur une puce de la taille d'une pièce de monnaie. Et donc, si vous voulez vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le site de la NASA, je suppose, et de remplir le formulaire avec votre nom, votre prénom, votre pays et votre adresse mail. Et donc, les participants peuvent ensuite récupérer leur carte d'embarquement. Voilà, donc il y a le logo de la NASA, le nom, alors là c'est un nom fictif je suppose, le lieu de lancement du robot, la date, juillet 2020, voilà. Il y a aussi ici un nombre de points qu'on gagne, voilà, un code barre, voilà. Je vais vous faire passer ça, vous pouvez regarder le billet si ça vous intéresse. Alors c'est un robot qui a pour mission de chercher des signes de vie microbienne, d'analyser le climat et la géologie de la planète Mars et surtout de récolter des échantillons de la planète en vue de préparer une prochaine mission habitée sur la planète. Alors je ne sais pas si c'est de ça dont Jésus parle quand il dit je vais vous préparer une place, comme on l'a lu tout à l'heure. On verra que ça va plus loin que ça, les paroles de Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais nous avons fêté l'Ascension cette semaine. Alors, on le sait parce qu'il y a un jour férié, c'est un jeudi. Mais qu'est-ce que c'est l'Ascension ? Alors déjà, l'Ascension, ce n'est pas l'Assomption. L'Assomption, c'est une fête catholique et orthodoxe d'ailleurs, célébrée le 15 août, et qui dit que Marie, la mère de Jésus, n'est pas morte physiquement, mais montée directement au ciel. D'où la confusion qu'il peut y avoir entre ascension et assomption. L'assomption de Marie n'a aucun fondement biblique, ni aucun fondement historique. L'ascension de Jésus, par contre, est un événement historique et biblique très important pour notre foi chrétienne. Et c'est ce que j'aimerais rappeler ce matin. Alors, ce matin, on a une prédication thématique sur le thème de l'ascension, donc je n'ai pas un texte particulier que je vais expliquer, mais plusieurs versets que nous allons lire en rapport avec ce thème de l'ascension, et les textes vont s'afficher au fur et à mesure pour faciliter la lecture. Si vous voulez suivre à l'écran, vous pouvez aussi bien sûr suivre sur votre propre Bible. Alors, trois points ce matin. D'abord, qu'est-ce que c'est l'ascension ? Deuxième point, projet martien ou projet divin. Et troisième point, vers l'infini et au-delà. Les fans de Toy Story reconnaîtront la célèbre phrase de Buzz l'éclair. L'ascension. Nous en avons déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. Léon s'en a parlé. Quand Jésus dit « je vais vous préparer une place », c'est parce qu'il est parti. Après être demeuré sur terre pendant 40 jours après sa résurrection, Jésus est monté au ciel, d'où il doit revenir de la même manière qu'il est parti. Alors le ciel dans la Bible, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est donc pas le ciel des oiseaux, c'est donc pas le ciel de l'univers, de la planète Mars, c'est au-delà de ce ciel. Le ciel dans la Bible, quand on parle du ciel, c'est le lieu de la présence de Dieu. Alors dans Actes 1, versets 9 à 11, nous lisons après ces mots, il, c'est les disciples, le virent, Jésus, s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » C'est ça, l'ascension de Jésus. Jésus demande ici à ses disciples d'attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit pour rendre témoignage jusqu'au bout du monde. Parce que la mission, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la mission n'est pas encore terminée. Et puis Jésus s'élève dans les airs. Et les disciples restent le nez en l'air. Peut-être se demandaient-ils si Jésus allait revenir rapidement, je ne sais pas. Et c'est des anges qui viennent les sortir un peu de leurs observations astronomiques et qui leur disent « Pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» En gros, le spectacle est terminé. « Rentrez chez vous, Jésus est parti et il reviendra. » Mais pour l'instant, les disciples sont un peu perplexes. Et l'ange leur fait ce rappel sous forme d'une promesse. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Jésus reviendra. Jésus réatterrira un jour aux yeux de tous, en chair et en os. Et ici, les anges le rappellent parce que Jésus l'a déjà dit à ses disciples. C'est ce que Léonce nous a lu dans Jean 14 tout à l'heure. Donc voilà, qu'est-ce que c'est l'ascension de Jésus ? C'est ce moment où Jésus est monté au ciel et c'est ce moment qui ouvre un temps pour notre humanité où Jésus est absent, absent de corps. Jésus n'est pas présent physiquement, il est retourné vers son Père céleste et un jour il reviendra. Alors aujourd'hui, pour nous qui sommes assis ici, nous sommes encore dans cette période de temps où Jésus n'est pas là physiquement parmi nous, mais il est présent parmi nous par son esprit, et aussi en nous quand nous sommes chrétiens. Et c'est par l'amour que nous nous manifestons les uns aux autres que nous rendons concrète sa présence. Cela ne veut pas dire que Jésus ne peut pas apparaître visuellement, par exemple, à quelqu'un, mais cette apparition doit être évaluer avec discernement, justement parce que nous sommes dans cette période entre la première venue de Jésus et son retour, période où il n'est pas là physiquement, justement. Donc voilà ce que c'est l'ascension. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé une fois que Jésus est monté au ciel ? Léonce nous a dit tout à l'heure qu'il est allé nous préparer une place. Nous avons lu ces textes. Regardons cela d'un petit peu plus près. Quel est le projet de Dieu ? Et donc là, on a un peu deux projets qui peuvent se confronter, voire s'opposer. Le projet de Dieu et le projet des hommes. Par exemple, projet d'aller sur la planète Mars. Et là, nous allons lire un deuxième texte dans Hébreux, chapitre 9, au verset 24. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé au ciel ? Parce que les disciples l'ont vu décoller. Mais ensuite, que s'est-il passé ? L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Car ce n'est pas dans un sanctuaire, c'est un temple, construit par des hommes, simple image du vrai temple, du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'Ancienne Alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. » Mais le Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Tu peux remettre le verset d'avant ? Ce texte nous dit deux choses. La première, c'est que Jésus est entré dans le ciel, c'est-à-dire dans le lieu de la présence de Dieu, afin de se présenter devant Dieu pour nous. Et la deuxième chose qui nous est dit ici, c'est que chaque année, le grand prêtre, dans la religion juive, devait entrer dans le sanctuaire pour présenter du sang, le sang d'un sacrifice, pour que Dieu pardonne les péchés du peuple, et aussi les péchés du grand prêtre d'ailleurs. Eh bien, cet aspect de la religion juive était une image, c'est ce que nous dit ici le texte, de ce que Jésus a fait lorsqu'il est monté au ciel. Non seulement il s'est présenté devant Dieu, mais il s'est présenté devant Dieu symboliquement avec son sang, c'est-à-dire avec sa vie qu'il a offert pour pardonner nos péchés. On commence à comprendre, ou on se rappelle, donc, l'importance de l'ascension de Jésus. Jésus n'est pas parti en voyage touristique. Jésus est parti se présenter devant son Père céleste et montrer, faire approuver ce qu'il avait accompli pour nous. Il a offert sa vie en sacrifice pour nos péchés. Et à cause de ce sacrifice une fois pour toutes, le Père céleste nous a déclaré acquittés, c'est-à-dire non coupables, pardonnés de nos péchés. Vous voyez ? Nous pouvons peut-être, nous, inscrire nos noms sur une puce pour aller sur la planète Mars. C'est la carte d'embarquement qui a circulé là. Voilà, je la récupère après. Parce que j'ai réservé mon voyage. Mais nous ne pouvons pas être sur la liste des gens que Dieu sauve. En bas de cette carte d'embarquement, j'en ai parlé, vous l'avez peut-être vu en passant, il y a des points à gagner, en bas, à droite. C'est marqué le nombre de points qu'on a gagnés. Et bien là, il nous faut faire un choix. Un choix entre le projet martien et le projet divin. Pour que nous puissions être sauvés, il fallait que Jésus non seulement meure à la croix pour nous, non seulement ressuscite, mais encore qu'il se présente en personne devant Dieu, non pas sur Mars, mais devant son Père, pour lui dire « Regarde, je suis mort pour un tel, je suis mort pour Jean-Pierre, je suis mort pour Mildred, je suis mort pour eux. Regarde mes mains, regarde mes pieds, c'est fait. » J'ai accompli l'œuvre que tu m'avais envoyé accomplir. J'ai payé le prix de leur salut éternel. Jésus a accompli un acte historique fondamental lorsqu'il est monté au ciel et quand il est arrivé au ciel. Non seulement il est monté, mais lorsqu'il est arrivé, il est entré dans son temple, le temple céleste, dont le temple à Jérusalem était une sorte d'avant-goût, mais pas la réalité ultime. Jésus est entré dans le ciel, entré dans ce temple, il s'y est installé à la fois en tant que celui qui s'est sacrifié pour nous, et aussi en tant que celui qui accomplit le rituel du sacrifice, le grand prêtre dont il est question dans ce texte. Alors nous qui sommes là aujourd'hui, nous n'avons rien fait qui puisse nous mériter d'être sauvés, d'être acquittés, d'être graciés par Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité, la vie, comme on l'a rappelé tout à l'heure. C'est lui qui a tout accompli, une fois pour toutes, à la croix, et en se présentant devant le Père dans le ciel, avec son sang versé à la croix. La part qui nous revient, c'est d'accepter ou de refuser ce sacrifice, de reconnaître notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Les points gagnants là, en bas de la carte d'embarquement, ça ne marche pas avec Dieu. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous pardonner à cause de Jésus et du sang qu'il a versé pour nous. Nous ne pouvons pas gagner les points qui nous permettent d'acheter notre carte d'embarquement céleste. Jésus est donc monté au ciel. Il s'est présenté devant le Père pour nous. Et cet acte historique fondamental nous met devant un choix. De choisir entre le projet martien, c'est-à-dire de continuer à essayer d'inscrire notre propre nom par nos propres moyens et à espérer gagner les points qui vont nous permettre de faire partie du voyage, ou alors de laisser ça et d'accepter que Jésus l'ait fait à notre place. Et ce projet divin nous emmène beaucoup plus loin qu'un projet de voyage sur la planète Mars. C'est un projet qui nous emmène vers l'infini et au-delà. Ce sera le troisième et dernier point de cette prédication. Jésus est monté au ciel. Jésus s'est présenté devant le Père Céleste avec le résultat de sa mission terrestre. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jésus s'est assis à la droite de Dieu, sur le trône divin. Et il y est depuis 2000 ans. C'est ce qu'il dit déjà à ses disciples avant de partir. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha d'eux, les disciples, et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Jésus dit ça juste avant de monter au ciel. « J'ai reçu tout pouvoir. » C'est moi le patron, c'est moi le roi. Et donc en disant ça, Jésus sait que lorsqu'il va monter, il va recevoir ses pleins pouvoirs. Non pas qu'il ne les avait pas déjà, mais ça va être officialisé concrètement. Il va entrer dans son règne. Le Père va lui dire, « Oui mon fils, viens t'asseoir à ma droite et règne. » Depuis 2000 ans donc, Jésus règne sur toute chose. Jésus est d'abord venu régler le problème du péché par sa mort à la croix une fois pour toutes. Et ensuite, après sa résurrection, il est monté au ciel, il est entré dans son règne. Et c'est à ce moment-là qu'il a été officiellement consacré roi pour l'éternité, vers l'infini et au-delà. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait concrètement en tant que roi aujourd'hui et depuis 2000 ans? Deuxième élément, Jésus est en train de soumettre tous ses ennemis pour que tous reconnaissent qu'il est le roi. 1 Corinthiens 15, verset 23. Paul est en train de parler de la résurrection dans tout ce chapitre et il dit « Cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, ça c'était il y a 2000 ans, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, donc quand il va revenir, ceux qui lui appartiennent, les chrétiens, ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Et encore le verset 26, « C'est le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » Parce qu'il y a encore des ennemis. Tu pourrais mettre le verset 25, le verset d'avant. Voilà, c'est ici le verset important. Il faut en effet qu'il règne, Jésus, jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Quand nous ouvrons la radio ou la télévision ou Internet, nous pouvons parfois douter de cela. Quand nous voyons tout le mal, les catastrophes, tout ce qui se passe de mauvais dans notre monde, nous pouvons nous demander parfois, mais où est le règne de Jésus? Où est-il en train de soumettre tous ses ennemis? Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Même si les forces du mal et la mort se déchaînent, parce qu'ils savent qu'ils ont peu de temps. Une fois que tout aura été accompli et que le jugement de Dieu aura eu lieu, tout genou fléchira. Chaque être humain reconnaîtra que Jésus est le roi. Et puisque son autorité n'aura plus besoin d'être prouvée, alors Jésus remettra cette autorité royale à son Père. C'est ce que nous dit ce texte. Depuis 2000 ans, Jésus règne sur ce monde. Et un jour, tout le monde fléchira le genou devant lui en reconnaissant, oui, c'est toi le Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie. Vous connaissez le Seigneur des Anneaux? Dans l'épisode du retour du roi, titre du troisième et dernier tome de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien, nous voyons le roi de la lignée humaine qui vient de battre les armées de Sauron et de Saruman, et ce roi est finalement couronné. Et devant lui, il y a là une représentation de tous les peuples, les hobbits, les humains, les elfes, les nains. Et à un moment, tout le monde courbe le genou devant le roi. Ce roi qui est finalement couronné, eh bien, des gens de tous les peuples s'agenouillent devant lui. C'est là aussi une image de ce qui va venir un jour. Chacun d'entre nous, qui venons d'ailleurs de différents peuples, nous plierons le genou pour reconnaître que Jésus est le roi. Et le dernier ennemi du roi qui sera vaincu lors de son retour, c'est la mort. La mort qui nous frappe encore aujourd'hui et par laquelle nous allons passer. Dans son règne, Jésus est donc en train de livrer un combat spirituel, pour sauver ceux qui sont perdus et pour venir au secours de tous ceux qui lui appartiennent. C'est aussi un élément important ici. Troisième et dernier élément, qu'est-ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui ? Il est en train de prier pour nous. Romains 8, verset 34. Paul est en train de parler des chrétiens. Qui les condamnera ? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Intercéder, c'est-à-dire prier en notre faveur. Et puis dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 1, l'apôtre dit « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, et ça nous arrive aujourd'hui encore, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous voyez, le mot défenseur, c'est le même qu'on avait vu dans Jean 14 tout à l'heure pour le Saint-Esprit. Le mot ici, défenseur, plus intéressant encore que le mot consolateur d'ailleurs, parce que le mot ici, c'est un mot du vocabulaire juridique, c'est l'avocat de la défense. Hein, c'est celui qui plaide notre cause devant Dieu. Alors, ça nous fait du bien de nous dire que le Saint-Esprit ou que Jésus nous console, et c'est juste. Mais si on veut être plus précis encore, c'est vraiment l'avocat de la défense, celui qui porte notre cause devant Dieu, quand nous ne nous sentons pas à la hauteur, pas capables, quand nous plions sous la honte ou la culpabilité de notre péché. Jésus vient et c'est comme si, voilà, il plaidait notre cause devant Dieu en disant « Oui, oui, il n'est pas capable. Oui, elle n'est pas belle dans son cœur, mais j'ai payé le prix du pardon de son péché. » Voilà ce que Jésus est en train de faire pour nous aujourd'hui. Si nous sommes chrétiens, Jésus est donc notre défenseur, notre avocat. Si nous avons mis notre confiance en lui parce que nous avons compris qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, pour dire à son Père, « Regarde, j'ai accompli la mission que tu m'avais confiée. » Et le Père dit, « Oui, je leur pardonne. » Voyez l'importance de l'ascension de Jésus. Si Jésus n'était pas monté au ciel, il n'y aurait pas eu cette validation de notre salut, cette approbation de notre salut. Si nous appartenons au roi Jésus, nous pouvons aujourd'hui encore compter sur ses prières quand nous sommes nous-mêmes découragés de prier, par exemple, ou quand nous rencontrons des difficultés, quand nous sommes stressés, quand nous sommes malades, quand des épreuves nous encerclent. Jésus a déjà remporté la victoire, même si nous n'en voyons pas encore tous les effets. Rappelons-nous que Jésus prépare son retour en soumettant peu à peu tous ses ennemis par son autorité et sa prière. Jésus est monté au ciel, il s'est présenté devant le Père avec le sang de son sacrifice pour nos péchés. Et s'il règne au ciel aujourd'hui, et ce sera le mot de la fin, c'est pour un jour redescendre du ciel et établir définitivement son règne sur une terre nouvelle, renouvelée. Jésus est monté au ciel il y a 2000 ans. Il a fait valider sa mission par Dieu le Père et il est aujourd'hui encore en mission au ciel pour vaincre ses ennemis. Mais un jour, il viendra de nouveau atterrir avec tous ceux qui partageront son règne éternel de justice et de paix. Nous allons vers un royaume infini et au-delà. Question, serons-nous du voyage ? Et est-ce que nous nous préparons au retour du roi ? Si vous êtes chrétien, vous avez déjà votre carte d'embarquement pour la nouvelle planète Terre. Vivez donc cette semaine qui s'ouvre devant vous avec cette certitude pour plaire au Seigneur. Si vous n'êtes pas chrétien, il n'est pas trop tard pour demander votre carte d'embarquement. Entendez ce matin l'Esprit de Dieu qui vous appelle à embarquer, justement. Tout ce que vous avez à faire, c'est renoncer au point que vous essayez de gagner là, sur la carte. Tout ce que vous essayez de faire pour prouver à Dieu votre propre justice. Et à la place, accepter la justice de Jésus. N'attendez pas. Nous ne savons pas quand le décollage aura lieu. Et il faut être prêt à embarquer. Nous allons prier. Ô Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce que Jésus a fait. Nous te remercions de ce qu'il est monté au ciel, de ce qu'il s'est présenté devant toi avec les preuves de la réussite de sa mission. Et nous te bénissons parce que tu as dit « Amen, c'est bien, c'est ce que je voulais, c'est ce que je t'avais demandé de faire et tu l'as fait. Viens t'asseoir à côté de moi, mon fils, et règne sur ce monde qui t'appartient. » Seigneur, ce matin, nous voulons reconnaître pour la première fois ou pour une nouvelle fois, que Jésus est le roi. Et non seulement qu'il est le roi, mais aussi qu'il est notre roi à chacun, et notre roi aussi en tant que peuple de Dieu. Aide-nous à vivre tout au long de cette semaine avec cette pensée que Jésus règne sur notre vie, et que nous pouvons simplement nous réjouir de ce que nous faisons déjà partie du voyage éternel auprès de lui. Que cela nous aide dans nos relations avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos voisins cette semaine. Que cela nous aide, nous encourage à parler de toi, ou simplement à vivre d'une manière juste devant toi tout au long de cette semaine. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous ces moments où nous regrettons parfois de ne pas pouvoir accumuler les points que nous pensons devoir mériter pour être meilleurs. Aide-nous à abandonner cette mentalité comptable pour nous abandonner entre tes mains, toi qui as tout payé pour nous. Merci Seigneur de nous faire grâce encore cette semaine et de nous encourager. Et c'est dans le nom de Jésus qui règne aujourd'hui à ta droite que nous te prions. Amen.